Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidna ilma ya karim rabbi zidna ilma ya karim rabbi zidna ilma ya karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. On reprend brièvement 5 minutes ce qui a été abordé dans le bayan de Jumaa pour ceux qui n'étaient pas au latanier par exemple. On avait dit que, brièvement, juste un rappel, que depuis maintenant un mois, la situation économique est tellement préoccupante que les populations du monde entier vivent dans une certaine angoisse. Mais, paradoxalement, j'allais presque dire Alhamdulillah, hein, depuis 3 jours, il y a eu une montée d'espoir. Depuis cet événement dont on a longuement discuté, longuement parlé pour la Salat al-Jum'ah, que c'est la première fois qu'une personne de couleur, une personne issue d'une communauté très pauvre, accède à un tel rang qui lui permet de diriger un pays. D'accord ? On avait dit que la population mondiale voit cela comme un événement dans lequel il y a beaucoup d'espoir. Il voit ces personnes, ce pays, comme étant des bienfaiteurs, encore une fois, de l'humanité. Et que pour beaucoup de personnes, un pas de géant a été fait dans l'histoire des civilisations, dans l'amitié entre les peuples. Alors, on avait dit également ce Jumaa que l'objectif n'est pas de parler de la politique, loin de là, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que, si on considère cela comme étant un apport important à toutes les civilisations, est-ce que nous, en tant que musulmans, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait-il pas déjà apporté quelque chose de semblable aux populations mondiales, mais pas en 2008 comme maintenant avec tout ce qu'il y a comme facilité et moyens techniques, mais il y a 15 siècles de cela, il y a 1500 années, dans un désert, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté beaucoup plus que ça en termes de relations humaines et des notions pour l'amitié entre les peuples. On avait dit que ces valeurs de liberté, de fraternité, de solidarité, d'égalité, hein, ces valeurs qui donnent parfois l'impression que les pays occidentaux ont longuement dépassé ce qu'ils appellent le reste du monde, ben ces valeurs, il ne faut pas croire que c'est issu de leur... C'est une idée propre à ces populations. Il ne faut pas croire que c'est un moment donné de leur vie, ils ont trouvé ces notions qui manquaient à l'humanité et qu'ils ont décidé d'appliquer, et que personne n'avait eu une telle ouverture d'esprit avant. Bien au contraire, ces notions de liberté, de fraternité, de solidarité, d'égalité, je ne dirais pas qu'ils existaient déjà, mais plus encore, ces notions, ces valeurs étaient à la base de la première société fondée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la ville Mubarak, la ville sainte de Madina Munawwara. Alors, concernant l'égalité des races, brièvement, simple rappel. Alors, c'est clair qu'avec cette élection, en 2008, les gens sont contents. Beaucoup de personnes d'origine africaine, ou autre, ils disent que peut-être, hein, il y aura plus de considération pour eux dans le monde, moins de racisme, moins de différenciation entre les races, d'accord? Alors, c'est pour ça que beaucoup de gens, ils sont tout à fait satisfaits, d'accord? Mais c'est comme si qu'on zappait sur notre histoire. C'est comme si qu'on avait oublié l'histoire de l'islam. Il y a 1500 années de cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait élevé un homme, lui aussi de couleur noire, un homme qui était d'Éthiopie. Et cet homme-là n'était pas député. Il n'était pas déjà un député qui allait devenir tel ou tel rang. Cet homme était un esclave que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait encouragé Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala an d'affranchir. Et cet homme était Bilal, radiallahu ta'ala, descendant d'esclaves, et esclave lui-même, récemment affranchi, et les musulmans entrent à Makkatul Mukarrama officiellement, donc pour la première fois, en l'an 7 de l'Hégire, une année après le pacte de Hudaybiyah. Et là, c'est un moment historique, car c'est le premier azan de l'histoire de l'islam qui va être donné ouvertement. Et c'est la première fois que les musulmans vont pouvoir faire une salat officiellement, dans la Masjid Haram à Makkatul Mukarrama près de la Kaaba, et le azan qui va être donné pour cette salat, c'est le premier azan de l'histoire de l'islam à Makka officiellement. Donc c'est un moment historique. Et là, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas choisi Abu Bakr, ni Umar, ni Uthman, ni Ali, ni quelqu'un de la tribu des Banu Hashim ou de Quraysh, ni un de ses gendres, mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Hazrat Bilal al-Habashi radiallahu ta'ala an, Bilal qui était un des hommes, une des personnes qui avait le plus supporter les difficultés pour conserver son iman. Bilal, qui était persécuté comme personne n'a jamais été persécuté, et qui malgré ses difficultés a gardé le iman de son cœur, il a refusé de délaisser le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ses sacrifices et pour des qualités qu'Allah seul connaît, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne Bilal radiallahu ta'ala pour être le premier mu'adhin de l'histoire de l'islam. Et une autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle Bilal et dit: oh Bilal, dans mon rêve, j'ai entendu tes pas dans le paradis. C'est un hadith qui se trouve dans Fazal et dans Hadith Sahaba aussi. J'ai entendu tes pas dans le paradis. Quelle action tu fais? Quelle est donc cette action que tu accomplis régulièrement qui t'a donné un degré aussi élevé que j'ai entendu tes pas dans le paradis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cité ce fadil-là, cette vertu, pour quelqu'un d'autre, pour un autre sahaba. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé Bilal radiallahu ta'ala an dans une assemblée des sahaba en racontant aux sahaba qu'il a entendu les traces de pas, qu'il a entendu, pardon, les pas de Hazrat Bilal al-Habashi radiallahu ta'ala anhu dans le paradis. Et on avait dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que même si un jour une personne de couleur venait à vous diriger, venez à être votre amir, même si cette personne a un aspect qui ne vous plaît pas. Et le prophète a utilisé une métaphore, comme si son visage ressemblait à un zabib. Il avait dit que le zabib, c'est quoi? C'est les raisins secs. Et si une personne même a le visage plissé, ou alors si une personne a un visage qui vous déplaît, d'accord, même ça, à partir du moment où c'est votre amir, vous devez l'obéir. Qu'il soit arabe, non arabe, blanc ou noir, s'il est votre amir, vous devrez l'obéir. Et cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam vaut jusqu'au qiyamah. Donc, dans l'obéissance envers un supérieur, envers un amir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, permettez-moi, il n'y a pas de arabe, il n'y a pas de comorien, il n'y a pas de maoré, il n'y a pas de français, il n'y a pas de etc. Moi-même, mes élèves au Moufia, ils font un complexe par rapport au métropolitain. Hein, si quelqu'un qui n'appartient pas à la communauté musulmane, comorienne, maoraise ou indienne, ils appellent ça les Français. D'accord? Et c'est comme si qu'ils avaient un respect intérieur des Français. Ils essaient de dire bonjour, comme etc. Moi, je fais comprendre à ces élèves que, certes, vous allez dans une école laïque, ça, il n'y a pas de doute, mais quand on se voit, vous faites salam alaikum, d'accord? Quand on est dans la madrasa, on a une tenue à respecter et on est musulman. D'accord? Donc, il n'y a aucune, le prophète nous a appris ça, que jusqu'au qiyamah, il n'y a aucun signe distinctif par rapport à l'origine d'une personne ou à sa couleur. Si cette personne est devenue votre amir, vous devez l'obéir. Même si lui n'a pas de rang social et que vous êtes quelqu'un de riche ou de reconnu dans la société, le amir se doit d'être obéi. Vous savez, ce genre de valeur, hein, ce genre de notion que le prophète nous a appris, il faut resituer dans le contexte. Si on tient tel discours en 2008, on dit, ben oui, c'est normal. Si c'est mon président, si c'est mon amir, si c'est mon directeur, même si c'est un homme de couleur, je l'obéis, il n'y a pas de problème, je ne suis pas raciste. Oui, mais en 2008, on peut dire que je ne suis pas raciste. Mais il y a 1500 années de cela, est-ce que cette notion d'égalité entre les races existait? Jamais de la vie. Il n'y a pas besoin de remonter la pendule à 15 siècles. Remonter la pendule à un siècle ou deux siècles et examiner la situation en Occident, l'esclavage, quand est-ce que l'esclavage a pris fin, et principalement la Réunion, et sur quels critères on choisissait les esclaves, et ça on va essayer de voir dans un instant. Resituons le contexte, cette parole dite il y a 1500 années, dans un désert, dans un endroit où les Arabes vivaient, on le dit, comme des barbares. En Occident, les gens vivaient dans la barbarie totale, les PS pareil. En Asie, c'était des conquêtes et des gens, ils mouraient en quantité dans les guerres. Il n'y avait aucune notion d'humanisme, aucune considération pour l'être humain. Si vous êtes riche et noble, là vous êtes respecté. Autrement, vous êtes un vil veillel, on n'a aucune considération pour vous. Dans ce contexte-là, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam tient ce discours d'égalité totale entre les races. Et lorsqu'Allah ta'ala dit dans le Coran que « Inna akramakum indallahi atqakum » c'est pas rien ça. Que les gens les plus honorés, ce sont les plus pieux. Et quand notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas ce qu'on appelle suwarikum, la yanzuru ila suwarikum, Allah ta'ala ne regarde pas votre apparence. C'est pas parce que vous êtes beau, vous êtes moins beau, vous avez un petit nez, un nez fin, un gros nez, des grosses oreilles, des petits. Allah ne regarde pas tout ça. L'être humain, oui, dans la société, si Regardez à quel degré on atteint dans certains pays, je ne citerai pas les noms, pour s'intégrer. Si physiquement une personne ne se trouve pas beau, elle n'hésitera pas à passer sous les mains d'un chirurgien plastique, à faire une chirurgie esthétique, à ranger mon nez, à ranger mes oreilles, remonter mes sourcils, etc., etc., parce que j'ai besoin d'être beau pour être accepté dans la société. Ça, c'est une loi imposée par les hommes. Et la loi du Créateur, c'est quoi ? Vos visages, Allah ne considère pas. C'est Allah qui a créé les hommes. Mais Allah regarde ce qu'il y a dans vos cœurs. Parce que ce qu'il y a dans les cœurs, ça dépend de l'homme. Tout est dans les mains d'Allah avant tout. Mais il y a avec ça le amal, le mujahada, l'effort que le musulman va faire sur son nafs, sur son iman, pour développer le iman et la croyance, l'amour pour Allah et son prophète dans son cœur. C'est ça qu'Allah regarde. Tout ce qui est au-delà de ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas. Le prophète m'a cité les trois races, que ce soit les blancs, les noirs, ou ce qu'on appelle, on avait expliqué, les asmar, j'ai dit ahmar ou asmar, d'accord, les personnes qui sont de couleur brune également. Allah ta'ala ne regarde pas tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala regarde la piété qu'il y a dans le cœur. Et cette notion d'égalité, elle est voulue par Allah azza wa jal. Car Allah ta'ala cite l'exemple de Luqman alayhi salam de le Coran, et la majorité des mu'arrikhin, des historiens, sont d'avis que Luqman était africain. Il était d'un pays d'Afrique, et donc il était de couleur de peau noire, Luqman alayhi salam. Et si on resitue, on remonte la pendule, il y a 5 ou 6 siècles, la personne de couleur noire, d'accord, tant qu'elle était en Afrique, elle ne dérangeait personne. Mais quand on a pu l'amener en Occident, c'était pour quoi? C'était pour le réduire à l'esclavage. Ces bienfaiteurs de l'humanité, il y a quelques années, réduisaient les personnes de couleur à l'esclavage. Ou après l'abolition de l'esclavage, on le faisait travailler dans des mines ou dans des champs, mais c'était comme l'esclavage, sauf qu'il y avait un maigre salaire. Et Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple d'un homme d'origine africaine, et Allah Ta'ala met en avant la sagesse de cet homme. Allah Ta'ala considère cette personne pour sa hikmat. Et Luqman était surnommé Luqman al-Hakim. Luqman le sage, qui donne des conseils à son fils, et ces conseils ont été inscrits dans le Coran avant la création des cieux et de la terre, et ils y resteront jusqu'au Qiyamah, que chaque époque, les hommes, les musulmans, devront méditer sur les conseils de cet homme sage envers son fils, ces conseils de Luqman alayhi salam pour son fils. Ça, c'est la considération qu'Allah Ta'ala a accordée à cette personne. Et Allah Ta'ala nous fait bien comprendre qu'il n'y a aucune, le prophète salam, qu'il n'y a strictement aucune différence entre les races par rapport aux couleurs. Donc ça, c'est le résumé de ce qu'on a dit. Et on a vu que le prophète salam était entouré de personnes qui étaient arabes ou d'origine africaine comme Bilal, ou alors comme Suhaib, qui venait de Roum, qui venait de l'Occident, il était de peau blanche, et Salman al-Farsi, par exemple, radiallahu ta'ala, était de Perse, et ces personnes sont devenues parmi les plus grands des Sahaba, malgré le fait qu'ils n'étaient pas originaires d'Arabie, qu'ils ne descendaient pas de grandes tribus arabes. Et ça, c'est un message extrêmement fort que l'islam nous fait passer, hein, cette notion d'égalité entre les races. Et la notion d'égalité, comme l'avait dit pour la salat d'Al-Jum'a, elle se retrouve également dans les actes d'adoration. Lors de la salat en jamaat, par exemple, le premier saf n'est réservé à personne. Il n'a jamais été dit que le premier saf est réservé à telle famille ou telle personne, là wallah. Celui qui arrive a le droit de s'asseoir. Et vous savez ça, ça étonne beaucoup de gens. Lorsqu'on fait les visites guidées de la masjid, on explique ça aux gens qui viennent visiter la masjid. Je vous dis, maintes et maintes visites qu'on a fait, bismillah, c'est quelque chose qui marque toujours les esprits. Les gens, ils sont étonnés de voir lorsqu'on dit que dans un même saf, vous allez trouver le chef d'entreprise, vous allez trouver son salarié, vous allez trouver le chômeur, une personne qui vient d'arriver, qui n'a aucune situation, tous dans un même rang. Parce que devant Dieu, nous sommes égaux. Ils sont étonnés, ah bon, c'est comme ça que ça se passe chez vous? Ben, chez nous, c'est pas toujours comme ça. Et puis, comment ça expliquer? On va pas rentrer dans ces détails, mais cette notion d'égalité, elle est omniprésente. Regardez pour le Hajj, lorsque vous mettez, ou le Umrah, lorsque vous mettez le Ihram, cet Ihram a pour but, c'est quoi l'objectif? C'est être le plus simple possible auprès d'Allah, bien sûr, mais parmi les sagesses, les ulama disent que c'est pour annuler tous les signes extérieurs de richesse. Lorsque vous êtes à Arafat, auprès d'Allah Ta'ala, okay, dans ce moment-là, on ne distingue pas l'homme riche de l'homme pauvre. Il n'y a pas un ihram de luxe et un ihram bon marché. On est habillé pareil, logé, on pourrait dire, à la même enseigne, et devant Allah, nous sommes tous égaux.
Ça, c'est extrêmement important. Et lorsqu'on est dans la tombe, les anges ne distinguent pas votre origine, ou votre couleur, ou votre appartenance sociale. Les anges vous posent les mêmes questions sur votre dîne, sur votre robe, sur votre prophète. Et puis, la tombe est un jardin du paradis, ou un jardin du paradis, ou un trou de l'enfer, pardon. Et c'est quoi les critères pour que ce soit soit l'un, soit l'autre? C'est la piété et les bonnes actions. Rien d'autre. Riche, pauvre, grand bonhomme, petit bonhomme, chômeur, chef d'entreprise, les anges ne connaissent pas ça. Ils connaissent votre iman et vos a'mal saliha. Et puis, il avait parlé de la notion de parité entre hommes et femmes. On avait dit que lorsque Allah Ta'ala dit dans le Coran, le verset qu'on a cité, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, ce verset, hein, cette notion de parité, aujourd'hui on court après dans les entreprises. Parité entre hommes et femmes n'est toujours pas respectée dans les rémunérations. Mais Allah Ta'ala nous fait comprendre que ce soit un homme ou une femme qui accomplit une bonne action, Allah Ta'ala rétribue de la même manière. Il n'y a pas de distinction dans les sawab. Et il y avait une petite zone obscure qu'on a tenue à éclaircir légèrement concernant l'héritage. Lorsqu'on dit que pourquoi dans l'islam les femmes héritent moins que les hommes, elles ont la moitié de la part de l'homme, êtes-vous misogyne ou autre chose? On dit qu'il faut resituer dans le contexte. Dans le contexte, ce qui incombe à l'homme dans l'islam n'est pas ce qui incombe à l'homme dans la société en Occident 2008, dans la société où on vit. Dans l'islam, l'homme se doit d'assurer le logement, la nourriture, les habits de la femme. C'est-à-dire toutes les dépenses de la maison reviennent à l'homme. Un mari, comme on l'a dit midi, ne peut pas dire à sa femme que moi je paye l'électricité, toi tu payes l'eau. Ou alors moi je mets l'essence de la voiture, toi tu payes le gaz. Moi j'achète le poulet, toi tu achètes le bœuf. On n'a pas le droit. Parce que ce qui incombe les huquq, les droits qui incombent au mari sont ce qu'on vient de citer. Et un mari ne peut se dégager de ses droits. Sauf si la femme est aisée, elle dit que j'ai envie de parler. Ça c'est autre chose. Maintenant, ce qui est superflu, parce que je crains qu'une dame qui entend ça, elle va dépasser les bornes. Ce qui est superflu, au-delà de la consommation, d'accord? On parle par exemple des courses de supermarché. Par exemple, madame, il veut manger, je ne sais pas, ma langouste tous les semaines, ou des camarons gros calibre comme ça, ou je ne sais pas quoi. Elle a l'habitude depuis qu'elle était jeune fille, d'accord? Bon, là, il y a un juste milieu, d'accord? Donc, toujours, selon le urf, les habitudes dans les localités, le juste milieu, en concernant les dépenses pour la nourriture, pour la maison, cela incombe totalement à l'homme. Et la femme, elle n'a pas déboursé un sou, un euro. C'est pour ça que l'homme a une part plus importante dans l'héritage que la femme. C'est tout à fait compréhensible dans ce contexte de responsabilité qui a été fixé par l'islam. Mais aujourd'hui, il y a des femmes, moi j'en connais, hein, des personnes converties, hein, il y a un ami à moi qui s'est converti, et il connaît pas encore tout sur l'islam, et il était outré, et sa femme est une fille musulmane originaire, hein, de la Réunion, il était outré, dit que mon épouse ne veut pas participer de le loyer. Le monsieur travaille et la femme travaille. Elle dit, ouais, madame, elle veut pas donner une part pour le loyer. Je dis, mon frère, tu t'es marié, tu t'es converti, tu es musulman, mais il faut connaître c'est quoi ton devoir en tant que mari. Tu n'as pas demandé à ta femme de participer de le loyer. Là, j'ai expliqué les devoirs du mari et là, il a compris. Mais je vous assure que chez certaines personnes, les femmes ne travaillent pas par plaisir. Elles travaillent parce que le mari exige d'elles de contribuer pour les dépenses de la maison. Chose qui est impossible et inconcevable dans l'islam. Alors maintenant, ça c'était un récapitulatif, 18 minutes, hein, on se limite toujours à 35 pour faciliter le nizam de la masjid. Alors maintenant, autre apport important de l'islam. Pourquoi on est en train de citer tout ça? C'est pas juste pour dire que dans notre passé il y a eu telle chose, non. C'est pour qu'on soit fier d'être musulman. Ça c'est important. Beaucoup de gens considèrent que être musulman est incompatible avec l'émancipation, alors avec le progrès, ou avec l'affirmation de sa personnalité. Que si vous êtes musulman, vous ne vous affirmerez jamais dans la société. C'est une religion rétrograde. Donc, on a un complexe d'infériorité dès le départ par rapport à ceux qui ne sont pas musulmans. Parfois, on se sent inférieur parce que je suis musulman, ben, je suis moins bien qu'eux. Il faut savoir que ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, ce n'était pas que la salat dans la masjid, et les autres ibadat. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté un mode de vie, un système on pourrait utiliser le terme un système complet qui touche la vie familiale, la vie économique, la vie sociale, les relations entre les gens, les relations politiques. C'était un din kamil. Lorsqu'Allah Ta'ala dit au Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ce din est complet. Ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté à l'humanité, aucun homme ne l'a fait. Regardez, je ne sais pas, je ne connais pas les noms, mais un grand un spécialiste dans l'économie, comme, comment s'appelle cet américain là, Ford, non, hein, je ne sais pas, un grand bonhomme de l'économie a apporté beaucoup de thèses là, dans l'économie. Bref, une personne comme ça, peut-être qu'elle a apporté une innovation très intéressante dans la, je sais pas, dans la fabrication, dans les usines, ou alors dans, hein,
Taylor,
par exemple, d'accord. Un homme comme ça, certes, sur le plan économique, son apport est considérable pour tous les pays. Mais est-ce qu'il a apporté des choses positives pour renforcer la cellule familiale, pour qu'il n'y ait plus de conflit entre l'homme et son épouse, ou pour la tranquillité intérieure, etc., etc. Il s'est peut-être spécialisé dans un domaine, comme il y en a qui se sont spécialisés dans d'autres choses, mais il n'y a pas eu un homme dans l'humanité qui a porté de telles notions pour tout ce qui concerne la vie, tout ce qui est imaginable dans la vie d'un être humain. Ça, c'est la perfection du dîn de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu la notion d'égalité entre les races, maintenant la notion de liberté. Il y a un point à éclaircir lorsqu'on parle d'esclavage. On avait déjà traité ça il y a un an et demi, mais il est bon à souligner parce que dans un article du Point, ou alors de l'Express, je ne sais même plus, il parlait de l'esclavage dans l'islam. Certes, l'esclavage était un système qui existait chez les Arabes pendant ce qu'on appelle la Jahiliya, l'époque de l'ignorance. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, c'est-à-dire il est devenu prophète à l'âge de 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a axé son action par rapport à l'esclavage sur deux points. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux sahaba quels sont les droits de l'esclave. Et en parenthèse, ce que je viens de dire tout à l'heure, les esclaves à l'époque des Arabes et même chez les musulmans, on ne choisissait pas l'esclave par rapport à sa couleur de peau, contrairement à ce qui se faisait en Occident et à l'île de la Réunion, à Madagascar, au Mozambique, dans tous les pays. D'accord ? C'était des esclaves de guerre. Les esclaves étaient des prisonniers de guerre. On ne les enfermait pas dans des cages. Ok ? Ils étaient des prisonniers de guerre et ils vivaient dans la maison avec ce qu'on appelle leur maître. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné tellement de droits à ses esclaves que si on analyse les droits qui les ont été attribués, ben c'est les mêmes droits, voire mieux même que les droits du travailleur moyen à notre époque. Entre autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au maître, c'est-à-dire au propriétaire, et c'est un mot fort, il a dit que si votre esclave vous a aidé pour préparer la nourriture, lorsque l'heure du repas est arrivée, vous devez le faire asseoir avec vous à table. Est-ce qu'un patron, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, inviterait son employé à manger à sa table? C'est difficile. Et le prophète m'a dit, et ça c'est dans Sunan al-Tirmidhi, c'est dans un des quatre Sunan. Si je ne me trompe pas, c'est Tirmidhi ou alors c'est Ibn Majah. En ce sens. Et le prophète m'a dit que si l'esclave a honte, dans ce cas, donnez-lui une portion de nourriture et il mangera à son aise. S'il a honte d'être à table avec son maître. Là aussi, le patron donnera peut-être des tickets restaurants, mais ça fait partie du contrat de travail. Mais un patron qui vous dit, viens manger avec moi dans mon bureau, de mon manger, je te donne à manger, ça aille chercher. Si vous le trouvez, dites-moi. Également, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au maître, au propriétaire de ses esclaves, que vous devez les vêtir des mêmes vêtements que vous portez. C'est-à-dire la même qualité de vêtements que je porte, je dois donner à mon esclave virtuel. Est-ce que vous trouvez ça de la part d'un patron qui, s'il met une chemise Pierre Cardin ou Dior, je ne sais quoi, il va donner à son employé une chemise de même valeur avec le pantalon, je ne sais pas quelle marque, et les chaussures de telle marque. Vous ne trouverez jamais ça. Le prophète m'a bien dit, le hadith, que de les donner des mêmes vêtements que vous portez, au Kamakal al-Sahad wassalam. Pas des vêtements usés, troués, que vous alliez donner à la Croix-Rouge. Je vous dis, ah ben tout compte fait, je donne à mon employé là. Les mêmes vêtements que vous portez. Ok ? Et la même nourriture, bien sûr, ce qu'on vient d'expliquer. Et le Prophète a dit, hein, le Prophète a qualifié ces personnes comme ikhwanukum khawalakum, si je ne me trompe pas des termes, ja'alahumullahu tahta aydikum, que ce sont vos frères qu'Allah a mis sous votre responsabilité. Ce n'est pas que vous les possédez, qui sont des objets pour vous. Allah les a mis sous votre responsabilité, sous vos mains, tahta aydikum. Le Prophète les a qualifiés de vos frères, ikhwanukum. Et le Prophète a dit au maître propriétaire que ne leur donnez pas un travail qui est au-dessus de leur compétence ou de leur force.